Et la route, ça a été un grand souvenir aussi, parce que la route, c'était l'hélicoptère d'Europe 1. À l'époque, on faisait des radioguidages, des radioguidages vachement, vachement sophistiqués avec des hélicoptères. Ça m'a permis de passer mon brevet d'hélico, puisque j'ai mon brevet de pilote, puisque je suis pilote d'avion. Et là, à cette époque-là, j'ai passé le brevet de pilote d'hélicoptère aux frais d'Europe 1.
Avec Fenwick ou...
Non. C'était l'hélicoptère d'Europe 1. C'était un hélicoptère que nous louions à Dalbronn. C'était à ce moment-là à Cergy-Pontoise. C'était pas du tout Fenwick. Fenwick était arrivé beaucoup plus tard. Et nous, on avait monté un système avec Jean Rodrigue, qui avait monté un système technique qui était sophistiqué, avec la voie qui partait de l'hélicoptère, qui allait vers un point haut qui était tenu par un technicien qui était sur un point haut, c'est-à-dire une montagne ou autre, et branché à un téléphone. Et la voie partait du point haut, du téléphone, il allait à Paris. À Paris, elle partait en Allemagne et elle ressortait par l'émetteur. Donc, c'était fabuleux.
Et ça, tu faisais aussi bien la région parisienne que les grands
alors,
départs.
Alors, tous les grands départs, on a fait tout le...
Tu faisais la vallée du Rhône
Toute la vallée du Rhône. On a fait tout l'autoroute A6. Et puis surtout, on a fait la grève des routiers. Je ne me rappelle plus la date, mais c'était la grève des routiers. C'était un truc dantesque où on a fait, je crois, j'ai dû faire là pratiquement 20 heures sur 24 de radioguidage pendant presque 10 jours, quoi. Et on avait installé un chalet à l'île d'Abo dans l'Isère, on avait notre hélicoptère, on avait les radios, etc. On faisait les Europe Stop, tout ça, c'était une formidable armada technique. Et moi, dans l'hélico, j'ai fait des choses extraordinaires parce que on se posait dans les cours de ferme, on se posait dans les jardins. Moi, j'avais des amis partout parce que, par exemple, quand je faisais des radioguidages en région parisienne, à Orgeval, sur le bord de l'autoroute, il y a une maison avec un monsieur qui était traiteur, il doit peut-être encore traiteur, dans la région d'Orgeval. Et je me posais au milieu dans son jardin et j'allais dans le jardin, j'allais casser la croûte. On cassait la croûte avec le pilote, on buvait, puis on partait, quoi. Et on avait des amis comme ça à travers toute la France, des amis partout. C'était vraiment très... Et alors j'ai vécu un événement catastrophique et qui est resté dans les annales. C'est la fameuse catastrophe de Beaune avec plus de 50 gamins qui sont morts dans l'accident de l'autocar. Et ce jour-là, nous, on était à Lyon pour les radioguidages. Et je me rappelle, on a décollé de Lyon à 4h du matin. La catastrophe a eu lieu à 2h du mat. On a décollé de Lyon à 4h du matin. On est venu en pleine nuit en hélicoptère pour faire les premiers témoignages. On s'est posé dans les champs. Enfin bref, c'était un truc absolument terrible. Ça, c'est un souvenir terrible. Et puis après, il y a tous les souvenirs rigolos, adorables. Et puis, il y a quand même eu une panne aussi d'hélicoptère au-dessus de la ville de Lyon, où on s'est posé en catastrophe sur les quais de Saône, dans le sable. Enfin, parce qu'il y avait un peu de sable à ce moment-là.
C'est quoi la technique quand ça arrive ?
C'est rien. C'est une panne, une fuite de palier arrière. D'un seul coup, le témoin rouge s'allume. Le rotor, il faut l'arrêter. Et puis, on se pose en autorotation sur les quais de Saône.
Le truc tourne.
Il tourne par la vitesse du vent, c'est-à-dire qu'il faut descendre à toute vitesse pour que ce soit le vent relatif qui entraîne les pales. Les pales ne sont plus entraînées par le moteur. Ouais. Et donc il faut descendre en autorotation, c'est-à-dire qu'il faut plonger comme une pierre. Et après, là, on fait un petit atterrissage, on fait un flair et puis on se pose sur. Mais alors, fort heureusement, on était au bord de la Saône, on a pu se poser sur la Saône. Bon, ça fait partie des souvenirs un peu périlleux, quoi.
Circulation, c'est pas toi qui l'as demandé.
La circulation, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi un jour on me l'a collé. Si, parce que ben justement, c'était la grande chance pour moi de sortir des reportages de Pierre Bonte. C'est-à-dire que c'était bien tout ce que j'ai fait avec Pierre, mais il fallait que j'en sorte. Et un jour, on m'a envoyé à Rosny-sous-Bois.
Qui est-ce qui a fait ça ? Dalle ?
Bruno Dalle. Et arrivé à Rosny-sous-Bois. Je me rappelle, Bruno, il a d'un seul coup, il a dit « Ah, ben tiens, toi, t'es bien parce que tu parles aux gens. » C'est parce qu'il avait ce sens, lui. Hein, il a ce sens du dialogue avec l'auditeur. Et il me disait « Tu parles aux gens parce que tu dis pas « On est bloqué sur l'autoroute. » Il me dit « Vous êtes bloqué sur l'autoroute. Hein. » Il dit « Toi, tu parles aux gens parce que tu t'adresses aux gens et ça me plaît bien et donc je vais te mettre au radioguidage. » Alors, c'était la chance de ma vie. Moi. Pour tout le monde, c'est une punition. Aujourd'hui, le journaliste qui arrive ici à Europe 1, la punition, c'est d'aller à Rosny-sous-Bois. Moi, c'était la joie de ma vie. Hein.
Tu as quand même vécu avec les gendarmes. Raconte-moi ça un peu.
Oh, j'en ai fait. Les gendarmes,
c'est spécial, Rosny, quand même.
Les gendarmes, Rosny-sous-Bois, le centre de Créteil à Lyon, partout. Et les gendarmes, bon, au bout d'un moment, c'est une grande famille. C'est-à-dire qu'on se connaît. Et puis, je me rappelle encore cette anecdote. C'était un... où le gendarme, il vient dans ma cabine, il me dit « Quel est le con qui m'a encore piqué mon transistor ?» Et puis j'étais en train de faire mon bulletin et c'est passé à l'antenne. C'est le sergent-chef qui venait m'engueuler parce que j'avais pris son transistor. Voilà, bon. Mais c'est vrai que Rony Sous-Bois, ça a été des heures et des heures et des heures d'antenne. Et là, j'ai appris à improviser. J'ai appris des choses que... Moi, j'étais tout nouveau. Hein. J'avais fait 5 ans d'interview, mais je n'avais jamais fait un papier. Jamais... Et là, j'ai appris à improviser et ça m'a beaucoup servi.
Et à faire court aussi.
Ah, ça, pour faire court, oui. Enfin, je continue à faire court avec la météo. Hein. Crois-moi, là-dessus, je suis bien entraîné.
Alors, parlons-en de la météo. Comment ça t'est arrivé, la météo ?
Ça, c'est Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, qui était patron d'Europe 1 à ce moment-là. Albert Simon était malade, et il n'allait pas bien, il était en petite forme. Et donc, il s'absentait. Et chaque fois qu'il s'absentait, parce qu'Albert Simon, on a toujours cru qu'Albert Simon était un... Enfin, on a toujours cru, on s'est toujours moqué de lui en disant qu'il se gourait, il se trompait, etc. Albert Simon, c'est un juif pratiquant. Et lui, il partait le vendredi. Il éteignait la lumière, il éteignait tout, il coupait la radio. Et comme il était le seul à faire la météo, il enregistrait tous ses bulletins pour la journée du samedi. Résultat, on était obligé de passer les bulletins à l'antenne. Et ces bulletins, parfois, ça arrive, ils se trompaient. Et donc, on passait à l'antenne des bulletins qui étaient enregistrés 15 heures avant, dans lesquels il disait il va faire beau sur toute la France, alors qu'il pleuvait à torrent. Et les gens disent, mais attends, il est fou, il suffit quand même qu'il ouvre la fenêtre pour savoir qu'il fait pas beau. Mais non, c'est parce qu'il avait tout coupé, il rouvrait sa truc le dimanche matin, et quoi qu'il arrive, comme les météos étaient sponsorisés, il fallait les passer, quoi qu'il arrive, on passait Albert Simon. Alors ça, Carrérou et Villeneuve, on dit, bon, il faut quand même arrêter un peu, il faut trouver un remplaçant d'Albert Simon quand il est pas là. Et ils m'ont dit, tiens, toi, Cabrol, puisque tu fais t'es fanat d'aviation, parce que je parlais beaucoup d'avion, parce que je faisais déjà les radioguidages, ils m'ont dit, puisque tu fais les radioguidages avec tes fans d'avion, tu connais un peu la météo. Je dis, bah oui, moi, la météo, je la pratique régulièrement dans mon avion. Il me dit, bah écoute, tu vas être l'assistant d'Albert Simon, qui lui n'entendait pas du tout de cette oreille. Donc Albert Simon ne voulait pas entendre parler de moi, il a été très très froid avec moi, très distant. Je regrettais d'ailleurs parce qu'il me voyait comme un concurrent, alors que moi j'étais là pour faire le boulot quand il n'était pas là. Quoi. Et finalement, je suis entré à la météo comme ça, en étant l'adjoint, enfin le remplaçant d'Albert Simon. Et puis quand il est parti à la retraite, parce qu'il a été malade à un moment, ils l'ont poussé un petit peu à la retraite, ou il est parti, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pris sa place à ce moment-là.
C'était un truc en plus ou
c'est... Ah non, moi c'était une grande joie. Parce que moi je suis un fan de météo, hein, même à l'époque. C'est vrai que c'est né d'abord parce que je suis paysan et que le paysan il passe son temps à regarder le ciel, et moi je regardais toujours le ciel, et j'ai toujours été très sensible à la météo. Ensuite parce que j'étais aviateur, et quand on est aviateur, surtout à l'époque où il n'y avait pas les protections météo qu'on a aujourd'hui, il fallait vraiment faire son temps soi-même, faire sa prévision soi-même, et quand on voyait arriver un front, on était dans l'avion, là on n'avait pas les aides qu'on a aujourd'hui avec les GPS, les machins, pour se détourner sur les aérodromes, il fallait vraiment être efficace. Donc là, moi, j'étais quand même bien aguerri en matière de météo, et donc j'aimais ça. Et quand on m'a demandé de faire la météo, ça a été pour moi, ça n'a pas été du tout une punition. C'était comme Rony Sous-Bois, c'était un truc sympa, et la météo, c'était une autre dimension, et j'étais ravi de faire la météo. On a toujours considéré que la météo, c'était du sous-journalisme, etc. Et j'ai toujours, moi, considéré que c'était un vrai boulot, un vrai travail, et pas facile à faire, parce qu'il faut avoir l'impression, toujours, après 20 000 bulletins, j'en ai peut-être fait 20 000, avoir l'impression, et donner l'impression qu'on découvre le temps qu'il va faire, comme si c'était le premier jour, quoi. Ça, la météo, c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut être toujours dans le temps qu'on va te donner, et on te le donne en général au dernier moment, c'est-à-dire 10 secondes avant de prendre l'antenne, on te dit tu vas faire 1:30 ou tu vas faire 1 ou tu vas faire 50, parce que ça dépend de celui qui t'a précédé. Et là, il faut être à la fois très clair, très précis, et puis tu peux pas t'appuyer, si tu appuies sur un texte si tu veux, mais moi j'ai toujours l'improvisation. Par exemple, aujourd'hui, les bulletins, je viens à l'antenne avec une liste de température, c'est tout, mais tout le bulletin, il est improvisé.
Une carte avec des pitots, non ?
Oui, mais je m'en sers pas. C'est la météo, je l'ai en tête, et puis je la travaille pendant une demi-heure le matin, et puis une fois que je l'ai en tête, c'est fini. Donc c'est en même temps une bonne école d'improvisation, mais il faut être très précis, il faut pas oublier les choses, il faut parler aux gens, parce que à Marseille, un nuage dans le ciel, ça veut dire qu'il va pas faire beau. À Paris, un nuage dans le ciel, ça veut dire qu'il va faire très beau. Donc il faut savoir que selon les régions, ce que l'on va dire aux gens. Si on dit aux gens qu'il fait un temps magnifique alors qu'il y a une tramontane à décorner les bœufs, les gens ils se foutent de votre gueule. Ils disent attends, t'as qu'à venir, mon petit père, tu verras ce que c'est que d'avoir une tramontane à 90 à l'heure. D'où l'intérêt de connaître la France. Et alors, il y a aussi un truc assez drôle, c'est que je fais souvent la météo chez moi, parce que compte tenu du nombre de météos que je fais, j'ai une ligne chez moi, et souvent je suis installé à la maison. Et un matin, comme tous les matins, je fais la météo à 5h30, et puis chez moi, j'ai un jardin, donc je regarde le jardin, je vois qu'il pleuvait, j'ai tout mouillé, c'était pas prévu, je dis merde. Bon, et puis je commence à dire, bon ben voilà, il pleut sur Paris, c'était pas prévu, mais enfin la pluie est arrivée plus rapidement que prévu. C'était quand même il y a quelques années, on n'avait pas les éléments sur Internet qu'on a aujourd'hui, ni les images satellites. Et puis à 6h, je répète la même chose, et puis il y a la rédac qui m'appelle, tu sais, on a des appels d'auditeurs qui disent que tu déconnes complètement, il pleut pas sur Paris, il fait même très beau, etc. Il fait des nuits encore, bon, j'étais tout mouillé, je dis bon, ben, je répète à 6h30, ben oui, quelques petites ondées sont peut-être pas partout, mais enfin, en tout cas, sur la banlieue, moi j'habitais au Vésinet, je dis sur la banlieue, là, ça. Et puis à 7h, je vais chercher le journal, parce que j'ai le journal qui arrive dans la boîte, je vais à la boîte, et puis j'arrive à la boîte, le truc, et puis je vois la route, effectivement, la rue devant moi sèche. Oh putain, l'arrosage automatique. C'est parce que l'arrosage automatique s'était mis en route dans mon jardin et qu'il était tout mouillé, mon jardin. Et c'est comme ça que j'ai laissé croire à tout le monde qu'il pleuvait sur Paris alors qu'il faisait un temps magnifique. C'est drôle, ça. Voilà comme quoi à quoi ça tient, tu vois.